Bonjour à toutes et à tous. Donc Pierre Perrier, sociologue d'éducation, Université Rennes 2 et chercheur au CREAD. Donc c'est le centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et les didactiques. Donc je travaille depuis quelques années et je continue sur les acteurs éducatifs et scolaires dans les contextes des quartiers populaires ou d'éducation prioritaire, les deux se recouvrant parfois. Ce matin, donc, je vais reprendre des éléments d'analyse de recherche menée dans les années 2003-2004 et qui ont donné lieu donc à un ouvrage École et familles populaires, sociologie d'un différent avec un D. Actuellement donc et depuis une année déjà, mais ça se poursuit, je mène une recherche donc sur un quartier populaire à Rennes qui est en programme de réussite éducative et en zone d'éducation prioritaire. Juste deux mots sur cette recherche parce que donc je suis en train d'exploiter et d'enrichir les lignes d'analyse que j'ai développées depuis quelques années donc à la lumière de ce que je découvre dans cette nouvelle enquête. Elle est construite sur 2 ans, donc c'est une méthodologie longitudinale, enquête longitudinale, avec l'année CM2 et l'année 6e. Donc on a vu les parents des élèves des classes de CM2 de 2 écoles élémentaires situées dans le quartier. Et on a vu également donc les enfants en entretien, ainsi que les enseignants de niveau élémentaire, et puis entretien aussi avec directeurs, directrices des écoles respectives. Ces enfants donc sont entrés en classe de 6e dans un collège ZEP pour une partie d'entre eux, dans un collège plus hétérogène socialement et scolairement pour une autre partie de ces élèves. Donc je pense que l'originalité et je pense la fécondité heuristique du dispositif, c'est celle justement d'enquêter non pas par un moment donné, on va donner un coup de sonde pour essayer de comprendre ce qui se joue et les logiques des acteurs, mais c'est de voir dans la durée comment ça évolue, comment ça s'infléchit dans des directions différentes, avec en particulier ce tournant à la fois scolaire, biographique, qui est celui de l'entrée en classe de 6e et donc le franchissement d'une étape dans la construction du sujet, mais aussi dans la scolarité et, je crois, dans la vie des familles. Alors, autre particularité, et j'en terminerai avec ça dans la présentation rapide de cette enquête, c'est qu'il y a un grand nombre de familles issues de l'immigration d'origine étrangère, 26 langues différentes pour 250 élèves dans l'école élémentaire. Donc, c'est quelque chose de très coloré ethniquement et bigarré dans les langues et dialectes parlés par les enfants, donc aussi bien d'Europe de l'Est que d'Afrique sub saharienne. Donc il y a une diversité qui est évidemment un défi hein, pour les acteurs, et puis une difficulté réelle, notamment on va le voir dans les relations entre école et famille. Alors, nous y voilà. Donc, les relations entre les familles l'école. Alors, je mets plutôt effectivement famille plurielle parce que ce qui frappe, c'est la diversité de ces familles, y compris lorsqu'on veut définir un périmètre, un sous-ensemble qui serait les familles dites populaires. Alors, je continue de dire populaire. Je suis assez embarrassé avec ce terme. Bon, j'essaie d'écrire quand je le peux, mais c'est plus difficile oralement ce que on peut comprendre derrière ce terme de populaire, mais la question est souvent posée et m'est souvent posée, mais répondre en quelques instants, c'est pas très simple. Mais considérons que ces familles populaires sont très différenciées, beaucoup plus qu'elles ne l'étaient auparavant, où le populaire, c'était le monde ouvrier, c'était la classe ouvrière. Donc il y avait, sinon une communauté, du moins une plus grande homogénéité de conditions, d'aspirations, de revendications, une identité partagée. Une culture ouvrière, hein, aurait dit Michel Verret, qui s'est défaite, s'est diluée, en même temps que cette cette population a décliné statistiquement dans la société française. Mais c'est pas qu'un déclin statistique. Hein. Ce que je dis souvent, c'est aussi une perte d'identité, une perte d'héritage. Alors, il faut pas être nostalgique par rapport à ça, mais d'héritage culturel dans une transmission au sein de la famille, en particulier entre le père et ses enfants garçons. Donc il y a une recomposition de ce monde populaire, recomposition où il y a toujours des ouvriers, de plus en plus d'employés, c'est le versant féminin hein, de ce monde populaire, des femmes et aussi de plus en plus des hommes donc dans des emplois de service peu ou non qualifiés, des statuts précaires, des emplois mal rémunérés, mal considérés, difficiles avec des horaires atypiques. Voilà un peu les situations qu'on découvre dans ces familles populaires contemporaines dans les quartiers où j'ai pu enquêter et les rencontrer. Donc des familles hein, au sens pluriel et l'école. Alors le « et » est intéressant parce qu'effectivement c'est l'enjeu, hein, c'est le lien entre ces familles dans leur grande diversité. Et les liens, selon quelle forme, selon quelle modalité, quelle nature de lien, quel est l'objet du lien, hein, qu'est-ce qui circule entre les familles et l'école, quelle est la nature des transactions, comme diraient les interactionnistes, entre les familles et l'école, entre les parents et les enseignants, entre les parents et les acteurs de l'institution scolaire, puisqu'il n'y a pas que des instances de socialisation, il y a des acteurs individualisés qui sont en interaction de façon plus ou moins fréquentes, plus ou moins intelligibles pour chacune des parties, et c'est un peu l'objet de mes recherches. Donc je parle en termes d'enjeux, je vais essayer de dire pourquoi, en termes de négociation, donc là aussi un autre terme, mais je ne peux pas être trop bavard, qui est un peu embarrassant, c'est le terme de partenariat, il a été évoqué tout à l'heure, bon, j'utilise le terme de partenariat, mais pour en faire l'examen critique, mais le terme est présent parce qu'il est dans la terminologie institutionnelle, hein, donc on le voit dans les textes, il est dans le langage des la communauté de langage des acteurs, donc il est légitimé, bien qu'on peine à le définir. Là aussi, il faut s'attacher à définir les choses dont on traite, selon la fameuse leçon de Durkheim. Et je crois que sur ces termes qu'on utilise les uns les autres, il nous faut être précis, parce qu'en étant précis sur les termes, on va du coup interroger ce qui nous apparaît comme un peu des évidences, comme des normes, qu'on agit dans des pratiques, des routines ordinaire. Donc, avant de se focaliser trop vite sur la différence, interrogeons la normalité ou le normal à nos yeux, c'est-à-dire ce qu'on véhicule sans jamais le questionner d'une certaine manière. Hein, donc, c'est un peu aussi cette posture critique distanciée et qui ne porte pas d'emblée son regard sur une différence hiérarchisée et donc qui peut se constituer en stigmate, qui me semble intéressant d'avoir comme posture de vigilance hein, pour éclairer des réalités extrêmement complexe. Enfin, finalement, c'est aussi la grande leçon des recherches que je mène, c'est, je crois, progresser, mais à chaque fois, c'est l'étendue de ce qu'il me reste à faire que je mesure. Donc, ce n'est pas simple, cette affaire-là, et je vais vous faire partager un petit peu de la complexité. Pas trop, j'espère, parce que je suis quand même là pour aussi éclairer certains aspects. D'où peut-être le PowerPoint. Donc, il y a trois parties. Une partie donc sur ces relations entre familles alors populaires avec les quelques réserves que j'ai apportées préalablement et l'école, donc histoire, changement, forme actuelle. La seconde partie portera sur le partenariat, en quoi c'est pensé comme une nécessité, quelles sont les formes prises par ce partenariat et qu'est-ce qu'on sait de ses effets. Finalement, ça produit quoi? Ces relations école-famille, ce quasi-mot d'ordre institutionnel où il faut renforcer les liens avec les parents, et vous avez remarqué, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que effectivement là où c'est plus sensible, plus fragile, plus précaire, et plus souvent donc dans l'éducation prioritaire, on pense que c'est encore plus nécessaire qu'ailleurs. Mais remarquez également que c'est là que c'est plus difficile à construire. Donc on a une situation assez paradoxale qui mérite un examen critique de ce modèle de relation partenariale institué depuis plusieurs décennies maintenant. Donc ce sera ma seconde partie. La troisième portera sur des logiques de famille à distance de l'école. Je décris trois logiques, et n'épuise pas la complexité évidemment des configurations de relations entre les familles et l'école, mais peut-être qu'elles permettent d'éclairer par ces grands traits des réalités qui sont une fois de plus extrêmement complexes. Alors pour éclairer ces et incarner cette complexité, je vais m'appuyer sur, ça dépendra un petit peu du temps, deux ou trois témoignages qui ont été réalisés dans le cadre d'un partenariat Université Rennes 2, IFM de Bretagne et ATD Quart-Monde, aide à toute détresse, et ce sont des témoignages dont certains vraiment pour moi sont remarquables et poignants, donc c'est pour ça que je dis que c'est incarné, c'est pas simplement de l'illustration pour faire vivre des notions un peu théoriques, c'est donner à comprendre à partir du sens que les acteurs donnent à leur expérience, donc c'est du savoir indigène. C'est de l'intelligence produite par les acteurs eux-mêmes qui exige du sociologue une certaine humilité dans les analyses qu'il peut proposer, de façon pas toujours se placer comme on aura un petit peu tendance à le faire en surplomb par rapport à aux vérités partielles mais réelles pour ceux qui les portent des acteurs lorsqu'ils font trace et récit de leur expérience parfois douloureuse face à l'école. On le verra donc dans deux ou trois témoignages. Donc j'ai des témoignages de parents qu'on appelle des militants d'ATD Quart-Monde. Alors, les militants, c'est des aidés devenus aidants. C'est ce statut-là dans la terminologie de ATD Quart-Monde. ATD Quart-Monde étant un des acteurs qui intervient sur donc le programme de réussite éducative où je suis, moi, engagé au titre de chercheur, donc engagé distancié, enfin, en tous les cas, ne travaillant pas avec les mêmes outils et le même regard que les autres acteurs. Et également un témoignage d'une principale de collège. Et donc là, le croisement est assez enrichissant, même si le point de vue des uns se construit en relation avec le point de vue des autres. C'est un peu, je dirais, mon épistémologie, c'est de considérer non pas séparément les points de vue et les regards, mais toujours se dire qu'un point de vue est construit en rapport à un autre qui le construit. Et donc c'est quelque chose de circulaire. C'est quelque chose qui en permanence est en mouvement et donc il n'y a pas un point de vue détaché, indépendant, vous voyez, de d'un contexte, des acteurs dans lequel en fait il se construit. Il est toujours interactivement construit et c'est comme ça qu'on peut aussi avoir l'idée que les choses puissent évoluer. Alors sur la première partie, la famille comme enjeu dans les questions de scolarité, pour faire bref sur non pas le petit point d'histoire, mais comprendre finalement comment la question s'est imposée à nous, finalement pourquoi dans un séminaire de réflexion de travail sur l'éducation prioritaire et très élève en éducation prioritaire, la question de la famille se pose, qui est sans doute ne serait pas été le cas il y a peut-être encore une vingtaine d'années ou plus a fortiori. Donc ça paraît comme un enjeu dans les questions de scolarité, sachant que historiquement, donc on étudie un petit peu la littérature sur la question, on voit que les familles étaient tenues à distance de l'école, on pourrait dire jusque dans les années 50-60, c'était un peu le régime de relation avec les familles, c'est que elles avaient une obligation, celle de la scolarisation de leurs enfants, mais peu de participation ou de présence, peu de représentation. On n'avait pas encore créé les conseils d'administration, donc avec les élus parents d'élèves dans les collèges et lycées ou dans les écoles. Cet état des choses va durer jusque dans les années 60 sans que ça fasse problème. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on avait des familles à distance de l'école, avec même l'intention de les garder hors du périmètre scolaire. La fameuse phrase de Jules Ferry, seul l'État a le droit d'éduquer. Donc c'est vraiment l'entreprise de la République que de d'instruire et de nationaliser, comme dit Dominique Schnapper, les enfants donc des du peuple, comme on disait à cette époque. Donc on est passé de ce régime à distance, mais une distance qui ne posait pas problème, à un rapprochement nécessaire et qui n'a fait que s'amplifier, me semble-t-il, depuis les années 80. Donc trois grands moments et trois grandes figures de parents. Première figure, les parents sont administrés. Je reprends une typologie que j'enrichis aussi de Robert Bayon à l'origine. Les parents sont administrés, donc c'est l'époque qui court donc de la naissance de l'école républicaine jusque la première moitié du XXe siècle. Donc ils sont assujettis à l'administration scolaire avec l'obligation de scolarisation, comme je l'indiquais. La deuxième époque, c'est la période des années 50-60 aux années 80. Les parents sont représentés, parents abstraits, dit Robert Bayon. Autrement dit, il y a des élus hein, dans les associations qui montent en puissance dans ces années 60-70 pour représenter, défendre les intérêts, les valeurs des familles auprès de l'école. Bon, les valeurs de la famille avec les PEP, la défense de l'école laïque hein, avec la Fédération des conseils de parents d'élèves, donc avec des orientations, des valeurs différentes, il y a un système de représentation. Donc c'est intéressant de souligner quand même cette période parce que là, il n'y a pas de rapport individuel. Hein. La question de l'individualisation est traverse ce séminaire, je crois l'avoir compris. Et là, on pourrait dire que les parents sont représentés. Il y a des élus, il y a des instances collectives. La parole des parents est portée dans les établissements à travers ces représentants. Les années 80, et ça a été très bien effectivement pointé par Robert Bayon, dès le début des années 80, donc avec son ouvrage Les consommateurs d'école, hein, qui paraît en 1982, donc est pointé un changement, on pourrait dire, de régime de relation entre l'école et les familles, puisqu'on va voir des parents de façon individuelle essayer de négocier au mieux des intérêts de leur progéniture, les parcours scolaires, les choix d'options, les choix de filières, d'établissements. Donc cette figure de parents usagers, hein, usagers face à un service public, celui de l'école, mais des parents stratèges pour une partie d'entre eux. Stratèges, donc, selon le concept de Robert Bayon, hein, qui indique bien un changement de paradigme théorique aussi. Hein. On passe d'une logique de la reproduction, d'une explication par les structures sociales, à une logique qui va plutôt mettre l'accent sur les conduites plus ou moins rationnelles, dans tous les cas intentionnelles, des acteurs individualisés, donc stratèges pour une partie d'entre eux. Bien, donc des parents sont stratèges, mais c'est là que je poursuis, je dirais, la typologie de Robert Bayon. Si certains sont stratèges, face à une offre scolaire inégalement accessible et inégalement répartie sur le territoire, d'autres sont captifs, c'est-à-dire qu'ils ont accès à l'offre scolaire immédiatement dans la proximité, immédiatement accessible, donc qui est celle du quartier. Donc quand les uns choisissent de façon avertie, de façon stratégique, les autres prennent ce qui reste d'une certaine manière et parfois, entre guillemets, des miettes scolaires et sont captifs de l'offre scolaire locale. Et je suis assez frappé, on y reviendra peut-être dans les échanges si vous voulez, qu'il y a une prise de conscience des familles populaires. Elles sont pas complètement dupes de ce qui joue. Donc il y a une médiatisation hein, des différences entre les écoles, entre les établissements scolaires. Elles, comme nous, elles sont derrière le spectacle télévisuel pour voir que dans tel établissement, il y a des problèmes, alors que dans les établissements privés, pour prendre une position à peine caricaturale, ma foi, là, c'est un monde scolaire où les chances sont beaucoup plus grandes, etc. Mais bon, il faut payer, il y a des droits d'entrée, économiques et symboliques d'ailleurs, pour aller dans ces écoles privées. Mais donc ce spectacle médiatisé et entretenu, je dirais, par certains discours politiques, engendre une prise de conscience par les parents, alors en méconnaissance, hein, prise de conscience mais en méconnaissance, mais elles se rendent compte qu'il y a des différences, et à l'échelle de la recherche que je mène sur le quartier populaire à Rennes, eh bien, elles ont compris, pour certaines d'entre elles, qu'il y avait des différences qui sont réelles. On pourrait y revenir aussi entre eux, les deux collèges. Hein. Il y a un collège qui est plutôt plus réticent, hein, alors plus réticent au sens de l'effet établissement, on pourrait y revenir si vous voulez, qu'un autre. Hein. Donc elles n'ont pas complètement tort. Alors, elles ne savent pas ce que c'est que l'effet établissement, mais elles ont comme ça des informations qui vont les amener à se dire que finalement, est-ce que moi non plus, je ne peux pas choisir un établissement. Mais elles sont dans une position quand même de plus grande captivité, tout simplement par le lieu qu'elles peuvent habiter, par l'offre scolaire qui est proposée dans la proximité de leur habitat, par le fait qu'elles n'ont pas les capacités stratégiques pour accéder à l'information pertinente et faire des choix avertis comme le font une minorité. Alors, troisième point important dans cette question de l'enjeu, hein, de relation école-famille, c'est dit, redit, mais je crois que c'est quand même capital de comprendre le poids déterminant de l'école sur les destins individuels et sociaux. Donc, on est passé dans une société où le mode de reproduction est à dominante scolaire, et j'aurais envie de dire le mode de socialisation est à dominante scolaire. Les travaux de Philippe Pernoud et d'autres montrent bien, Pernoud parle de pédagogisation des relations familiales, que c'est pas simplement l'enfant qui va à l'école, l'enfant messager et message, fait pénétrer la culture scolaire, hein, dans l'espace domestique. Alors c'est le quotidien de la famille, ce sont les préoccupations qui monte dans les familles populaires, à travers par exemple la question des devoirs, on pourrait y revenir si vous voulez, mais les familles ont pris conscience de l'enjeu de la scolarité parce qu'elles mesurent bien, et surtout celles qui possèdent peu par ailleurs, qu'elles vont devoir leur destin et celui de leur enfant à ce qu'il va pouvoir acquérir, obtenir ou pas à l'école. C'est là que ça se joue, hein. Et celles qui possèdent le moins sont celles qui dépendent le plus, hein. Et celles qui dépendent le plus sont celles qui peuvent le moins. Donc on est un peu dans ce système de relations qui fait que l'enjeu est là, mais on ne sait pas très bien comment faire lorsqu'on est du côté des familles populaires. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un pouvoir accru de l'école sur les individus et les familles. Donc une attente aussi des familles sur l'école et de la société. Hein, l'échec est plus difficilement supportable aujourd'hui compte tenu de ses conséquences individuel, professionnel et social. Fort heureusement, là aussi, il faut rectifier parfois des propos erronés ou des choses qui sont pas assez explicitées. L'échec s'est considérablement réduit, mais il frappe davantage une partie de la population, et surtout avec des conséquences beaucoup plus lourdes qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc, il y a une pression, une attente sociale sur l'école, mais qui est aussi sur les familles, hein, parce que les familles doivent être partie prenante de cet enjeu de scolarité. Donc ce qui s'est établi dans ce tournant des années 80 et qui me semble s'est renforcé depuis, ce sont des rapports d'interdépendance entre l'école et son environnement. Donc le collègue Choukri Benayed interviendra sur cette logique de territorialisation et de ségrégation scolaire, ethnique, etc. cet après-midi. Mais on peut le souligner dès maintenant, effectivement, il y a une territorialisation des politiques éducatives et, je dirais, des problématiques scolaires. Donc tout se passe comme si on avait concentré en certains points du territoire des difficultés, des inégalités. Tellement concentré, je dirais qu'à un moment donné, ça devient irrémédiable. C'est-à-dire que il y a tellement d'inégalités en certains points que ces inégalités cumulées créent une inégalité supplémentaire qui est celle de leur cumul. Hein, donc la ségrégation, c'est ça. Hein, c'est pas une inégalité, la ségrégation. C'est une amplification d'inégalités qui sont déjà là. Hein, c'est comme si vous mettiez une couche supplémentaire sur toutes les inégalités qui sont déjà constituées simplement par le fait de cette territorialisation où sont concentrées donc les difficultés et inégalités que subissent une partie de la population. Donc ça se traduit scolairement par des disparités accrues entre les établissements. Donc il y a une littérature là-dessus aussi qui montre que on a des effets de contexte, des effets d'établissement qui sont plus marqués. Alors je crois que c'est important de le souligner, parce que vous allez me dire, on est peut-être un petit peu loin des relations école-famille, mais pas tant que ça, c'est une posture aussi qu'il faut adopter pour éclairer ces relations école-famille. Et s'agissant des effets de territoire, des effets d'établissement, ça nous permet de désindividualiser là aussi le regard qu'on porte sur ce qui se joue dans certains établissements et de ce que ça produit comme effet scolaire. Une partie, ça a été dit tout à l'heure, une partie de l'explication des difficultés, des inégalités, de l'échec, c'est pas le fait des individus, c'est le fait des contextes qu'on a construits dans lesquels ils sont pris malgré eux. Donc ça produit ça. Donc on essaie de mesurer, bon, il faut être prudent par rapport à la mesure de l'effet établissement, mais toute chose égale par ailleurs, on arrive quand même à dire que eh bien si tel enfant a été mis dans un autre contexte, les résultats auraient peut-être été meilleurs. Ce qui veut bien dire que c'est pas nécessairement la faute à la famille ou c'est pas la faute à l'enfant qui fait preuve de mauvaise volonté dans sa scolarité. Donc là aussi, prudence par rapport à la logique d'individualisation, me semble-t-il. Mais alors du côté de l'école, on voit concentrer dans certains établissements des publics, nouveaux publics si l'on veut, mais en tous les cas des difficultés, et ça va se traduire par une extension des missions de l'école et des enseignants, une diversification, une complexité accrue qui fait que... C'est un petit peu ma formule pour résumer tout ça. La question, c'est qu'est-ce que l'école ne doit pas faire dans certains quartiers. Donc, on finit par se demander. Et je crois que finalement, les interventions de ce matin, c'était un petit peu le symptôme de ça. Donc, il faut prendre en charge globalement. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est dans cette voie-là qu'il faut travailler? En tous les cas, les acteurs sont en difficulté nécessairement, j'ai envie de dire, pour accomplir de façon satisfaisante l'ensemble des missions. Alors, du côté des familles, les aspirations montent. Je vais passer assez vite sur cette diapositive, mais je voudrais souligner, comme le font les autres collègues, à quel point les familles, y compris populaires, immigrées, sont d'origine étrangère, préoccupées de voir leur enfant réussir à l'école. Alors effectivement, la question était posée tout à l'heure, c'est quoi cette réussite? Alors, dans l'enquête que je mène, justement, je pose la question aux parents et aux enfants. C'est quoi réussite, échec? On pourra en reparler, enfin on pourra pas reparler de tout, mais ce qui m'apparaît, c'est que ce sont pas des catégories pertinentes pour les parents et pour les jeunes. Ils n'utilisent pas ces mots-là. Spontanément, ils n'utilisent pas. Vous voyez, il faut que ce soit nous qui leur parlions de réussite ou d'échec pour qu'ils essayent de répondre quelque chose. Ils sont un peu en peine d'ailleurs pour répondre. Ce ne sont pas des catégories pertinentes. Réussite et échec sont des catégories construites par l'institution scolaire. Donc il faut s'interroger là aussi sur les normes qu'on continue de porter dans le langage et nos routines professionnelles, parce que finalement, ces normes ne font pas sens dans les catégories des acteurs, au moins ces familles-là. En revanche, la préoccupation, oui, elle est bien là, voir son enfant aller le plus loin possible, pousser ses études, les travaux de Stéphane Beau et Michel Pialou le montrent très très bien, donc avec des parents qui consentent un certain nombre de sacrifices, qui font une place à l'école dans le quotidien. Moi, je suis assez surpris de voir qu'effectivement ils parlent de l'école, ils font des aménagements dans l'espace domestique pour faire une place matérielle et symbolique à l'école et au savoir. Ils essayent, je dis bien ils essayent, on va y revenir, de se préoccuper de quel type de contact ils peuvent avoir avec les acteurs de l'école. Alors ce qui évidemment ressort tout de suite des recherches sur ces relations, c'est une méconnaissance du système éducatif. Un point que je ne soupçonnais pas, c'est-à-dire que là, avec les familles d'origine étrangère récemment arrivées sur le territoire, donc c'est complètement brouillé. Le système scolaire, c'est d'une opacité impénétrable pour ses parents. Ils vont vous dire maître et maîtresse pour des enfants qui sont au collège, pour prendre un exemple très très simple. Les différenciations de niveau, de cursus, les différentes étapes, non, ils ne voient pas. Ce qu'ils voient, c'est ce mirage presque scolaire de l'enfant qui va avoir une situation meilleure que la leur, qui va avoir un statut dans la société, qui va accéder à certains métiers. Et de ce point de vue, c'est intéressant de souligner qu'il y a un article de Tristan Poulaouet, le montre bien, sur les représentations des possibles en termes professionnels par les familles, qu'il y a une forme d'harmonisation, c'est-à-dire que ces familles-là, comme les autres, 4 sup, vont vous dire, moi je veux que mon enfant soit médecin, il veut être avocat, il veut être vétérinaire, etc. Donc il y a une représentation des possibles professionnels qui s'est égalisée. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est qu'elles n'ont pas conscience du chemin scolaire à parcourir pour y accéder. Vous voyez, la durée, le cheminement, les étapes, déroulé du cursus scolaire pour atteindre mirage parfois teinté donc de teinté de beaucoup de méconnaissances sur la façon d'y accéder, c'est ça qui caractérise d'une certaine manière les ambitions de ces familles. Donc méconnaissance du système éducatif, mais ça veut pas dire manque d'ambition, mais manque de compétences et difficulté à se positionner dans les relations. Quant aux modalités de l'échange, je vais y revenir, quant au suivi scolaire et aux attitudes éducatives même. Hein, on voit que les familles hésitent aujourd'hui, par exemple, sur la question d'autorité. Hein, elles savent plus très bien comment faire parce que leur enfant leur envoie une image de certaines pratiques qui sont condamnées moralement. Donc les parents sont parfois en difficulté parce qu'ils ne savent plus très bien quelle est la forme d'autorité qu'ils peuvent exercer sur leur enfant, et d'autant qu'eux-mêmes sont peut-être dans une position affaiblie du fait que leur statut social, leur activité ne leur donne plus la légitimité d'autorité dont ils étaient porteurs dans une autre configuration. Donc, l'enjeu, je crois, qui se pose pour les acteurs, famille et école, c'est celle de ce que j'appelle, et c'est un petit peu mon objet de recherche actuellement, la division du travail de scolarisation entre les familles et l'école. Alors, ça veut dire quoi, division du travail de scolarisation? C'est la question de la répartition des rôles et des responsabilités. Jusqu'où s'étend le rôle et la responsabilité de l'école et de ses différents acteurs? Jusqu'où s'étend le rôle et la responsabilité des parents? Et alors là, vraiment, les frontières sont floues, donc les tracés ne sont pas lisibles, et pourtant c'est bien ça qui est en jeu, qui circule, qui va être source de malentendus, de conflits récurrents entre certaines familles et l'école. Pour certains, familiers de l'institution scolaire, évidemment, on décrypte, non seulement on se conforme aux attentes de rôle, mais on anticipe, hein, on est capable de précéder l'attente l'école. Pour d'autres, au contraire, on va suivre un peu, on va être dans des attitudes que je qualifie plus réactionnelles, c'est-à-dire c'est en fonction des signaux envoyés par l'école ou par l'enfant messager qu'on va peut-être avoir quelques réactions et chercher à clarifier ce que l'école attend de vous. Donc, en termes de rôle et de responsabilité, ce n'est pas clair et ce n'est pas ajusté parce que les modes de socialisation, il y a mon collègue Daniel Tain donc, qui a écrit un beau livre hein, sur la question de la socialisation différenciée hein, entre le monde scolaire et le monde populaire. Donc, en termes de normes, de valeurs éducatives, on voit que c'est compatible, voire pas du tout. Alors, dans ce division du travail de scolarisation, il me semble qu'il y a un enjeu de statut et peut-être de disqualification symbolique des parents. Ça me semble de plus en plus évident, prégnant dans le quotidien des interactions dans la famille. À la fois sur le plan scolaire, parce que les parents sont très vite décrochés scolairement, comme je dis, c'est-à-dire dans la capacité d'aider leur enfant. Hein, donc, il a besoin d'être aidé pour ses devoirs à la maison. Il faut ne serait-ce que signer des cahiers, encore faut-il pouvoir lire et comprendre le français. Donc ce sont des obstacles rédhibitoires pour certains parents et c'est l'enfant qui va être le traducteur et interprète du message de l'école. Parce que dans mon dispositif d'enquête, donc en interrogeant d'un côté les enfants et de l'autre les parents, vous croisez les deux. Donc c'est assez amusant de voir que de façon précoce, les enfants ont une certaine habileté pour interpréter le message de l'école et d'oublier de faire signer certaines choses à leurs parents. Mais les parents ne le savent pas. Ils sont dans une remise de soi non seulement à l'école mais à leur enfant, donc il y a une forme de délégation par défaut qui est faite à l'enfant en raison de cette non seulement décrochage scolaire mais de cette impuissance à intervenir dans la scolarité de l'enfant, à comprendre sa scolarité, à préparer son avenir bien sûr. Mais la disqualification symbolique, elle est aussi sur le plan identitaire. J'ai écrit un article dans un numéro des cahiers de la recherche sur les savoirs et l'éducation qui porte sur, enfin je porte ça à votre connaissance, donc sur famille et impératif scolaire, qui est paru donc à l'automne dernier, donc sur la ce que j'appelle la déliaison intergénérationnelle, pour montrer que il y a une rupture dans la transmission culturelle au sein de ces familles. Alors il faut pas être nécessairement nostalgique du temps passé, hein, lorsque cette transmission de père en fils, cette transmission d'héritage professionnel se faisait, elle assurait aussi les conditions d'une reproduction et de la domination. Hein. Donc le fait qu'il y ait une rupture n'est pas nécessairement que négatif, ça peut être aussi le levier d'une émancipation où on est autorisé et où on s'autorise, y compris par nécessité, hein, puisqu'on peut plus s'inscrire dans les pas de son père, par exemple pour un fils qui pourrait être ouvrier, comme il l'était avec une certaine fierté à une époque, mais comme ils ne veulent surtout pas l'être aujourd'hui, et comme leurs parents eux-mêmes le disent, lui disent de ne pas l'être. Hein. Donc on a un changement dans le mode de transmission entre les générations, qui conduit, c'est une hypothèse sur laquelle je travaille, à un processus d'autonomisation précoce des adolescents. Moi, je suis assez frappé de voir que très tôt, les enfants sont mis en situation, malgré eux, et peut-être contre eux, voilà, gérer leur quotidien scolaire. Ils sont autonomisés. Et donc, s'il n'y a pas des relais, s'il n'y a pas des contextes de socialisation favorables, vous voyez ce qui peut se produire assez vite parce que les parents, eux, ne peuvent pas suivre. Donc, sous le plan identitaire, les parents sont peut-être disqualifiés, et d'autant qu'effectivement, ils sont moins des figures identificatoires pour leurs enfants dans une logique de transmission culturelle. Enfin, cette division problématique du travail de scolarisation, elle se joue sur le plan des cultures. Culture scolaire, culture populaire, bon c'est un peu un poncif de la sociologie que de présenter les choses comme ça, mais il me semble que ces familles, je le disais tout à l'heure, sont très éloignées pour certaines d'entre elles de l'école. Donc le chemin à parcourir pour s'acculturer à ce monde scolaire, je veux dire, il est trop long, hein, et ça passe trop vite. Donc, elles pourront pas être dans cette proximité, dans cette compréhension des attentes de l'école. Mais de l'autre côté, il me semble que l'école est peut-être dans une distance aussi. Là aussi, c'est un poncif de la sociologie, mais je voudrais ajouter une précision. Distance, donc, on va dire, de l'école et des enseignants à l'égard de ces familles. Alors, la distance, il y a toute une littérature là-dessus, elle est liée au recrutement social des enseignants. Hein. Il faut être un peu plus précis et on peut parler de dissimilarité sociale. Hein. Donc il y a des chercheurs qui ont construit un indice de dissimilarité sociale. Donc c'est la distorsion entre la structure sociale des familles et la structure sociale des enseignants. D'accord. Donc l'indice il est de 18% pour le niveau élémentaire et de 24% pour le niveau secondaire. Donc comprenez, il faudrait qu'un quart des professeurs du secondaire changent d'origine sociale pour ressembler à la sociologie des familles, des élèves qu'ils ont dans leur classe. D'accord ? Donc, premier élément. Second élément. Je parlais tout à l'heure d'effet de contexte, d'effet établissement. Qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes professeurs qui débute dans les collèges en ZEP et dans les quartiers populaires, établissements qui n'ont pas demandé, établissements qu'ils souhaitent quitter le plus rapidement possible, donc avec un turnover accéléré. Il y a quand même deux fois plus de professeurs de moins de 35 ans dans les collèges en ZEP que hors ZEP, et 40% des enseignants changent d'établissement au bout de 2 ans. Donc, le temps est accéléré là, du point de vue des affectations et mutations des enseignants. Donc, ce qui, vous le savez bien, contribue à déstabiliser les équipes et empêche de construire des projets dans la durée, là où ce serait sans doute beaucoup plus nécessaire. Donc, on a du fait de l'évolution assez récente dans la sociologie des enseignants du secondaire et de l'élémentaire, qui a tendance plutôt à s'élever, et rapide parenthèse, on peut craindre, puisque je travaille sur des maquettes enseignants, que le fait de relever à bac plus 5 le concours des enseignants amplifie la sociologie de le recrutement dans les classes supérieures de la société, parce qu'on on est inégalement placé pour supporter le coût d'études présentant un risque qui ne change pas. Hein, donc on peut allonger la durée des études, mais à condition de réduire le risque. D'ailleurs, il faudrait qu'il y ait plus de chances au concours, vous voyez. Mais si vous allongez la durée des études sans réduire le risque, ceux qui ont moins vont hésiter à s'engager. Je referme la parenthèse. Mais donc, dans concentré dans les établissements de banlieue, on a des jeunes enseignants qui, pas simplement parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils sont issus d'un certain milieu social, ont une certaine trajectoire, se retrouvent ensemble dans des établissements, et je crois que là, on creuse l'écart entre les familles et l'école, entre les parents et les enseignants, et comme je dis, c'est pas simplement un métier qu'ils découvrent, c'est parfois un monde qu'ils ne soupçonnaient pas. Hein, donc ils découvrent des familles, des quartiers, des conditions de vie, et il faut découvrir tout ça dans un temps extrêmement ramassé. Donc face à cet enjeu, si on veut considérer que cette division du travail de scolarisation est un enjeu, la réponse de l'institution scolaire, c'est celle du partenariat, je reprends le mot de l'institution, une logique de renforcement des liens avec les parents. Donc le partenariat, deuxième partie, nécessité implicite, j'aurais envie de dire impensé, hein, tout ce qui n'est pas questionné, hein, dans cette politique et ces dispositifs de partenariat est fait pour ce qu'on peut en mesurer. Alors, le partenariat apparaît comme un modèle de relation et on pourrait dire une norme de régulation des scolarités. Il s'agit non seulement de réguler, mais de prévenir et de réparer. Alors, je pense qu'il faut apporter une précision là. Réguler, réparer, mais tant sur le plan scolaire que sur le plan comportemental. Et ce point pourtant évident n'était pas apparu aussi nettement que depuis l'enquête que je mène, et je me rends compte qu'il faut bien dissocier les deux. Est-ce qu'on parle de partenariat pour un objectif scolaire, portant sur le registre des apprentissages et du scolaire, ou est-ce qu'on parle aussi sur le plan comportemental? Et les deux sont mêlés. Et c'est là qu'il y a peut-être une source de confusion et de différend avec les parents. Alors, les parents, donc, dans cette logique, sont supposés être des alliés, des recours. Hein, quel est le réflexe des acteurs quand ça va mal à l'école? C'est d'appeler les parents, en espérant qu'on arrivera à les joindre, sont comme des auxiliaires, c'est-à-dire qui prolongent dans l'espace domestique les attentes de l'école. Donc il y a la forme scolaire, hein, qui s'invite dans l'espace domestique à travers cette logique de partenariat. Ce qui signifie aussi qu'il y a des compétences à acquérir. Alors des compétences pour les enseignants, je ne vais pas avoir le temps beaucoup de développer, mais enfin c'est quand même l'idée, c'est un peu l'objet aussi de ce séminaire, de travailler en équipe, de coopérer avec les parents et partenaires de l'école. Je ne fais que citer l'une des 10 compétences de la circulaire donc de décembre 2006. Et s'agissant des parents, il y a des compétences à acquérir pour se comporter en parent d'élève. Hein. Alors, je renvoie au très bel article de Dominique Glassman hein, sur famille ou parents, donc paru dans la revue française de pédagogie. Et Glassman montre bien que l'enjeu, c'est de transformer les parents en parents d'élèves, c'est-à-dire transformer les enfants en enfants scolarisables, c'est-à-dire en élèves. Et on voyait bien tout à l'heure que on a chopé un petit peu sur les termes enfants, élèves. On est dans cette dualité, dans cette tension qui se joue du côté des enfants-élèves et du côté des parents-parents d'élèves. Hein. Et finalement, ce que l'école attend, ce n'est pas des familles, ce sont des parents. Hein. Au sein de l'institution scolaire, la terminologie, c'est en direction des parents. Hein. Réunion parents-professeurs, représentants de parents d'élèves, semaine des parents à l'école, etc. En revanche, le problème, me semble-t-il, ce sont les familles, hein, et c'est-à-dire celles qui restent aux portes de l'école, qui sont à l'extérieur de l'institution scolaire. Donc tant qu'on voit des parents, on a des acteurs individualisés, supposés compétents. Lorsqu'on parle des familles, on est plus sur le registre du problème qu'il va falloir éventuellement résoudre ou que l'on prend en compte dans l'explication des difficultés scolaires. Alors, ce partenariat qui nous apparaît louable et qui nous piège d'une certaine manière, puisque il nous laisse entendre que on va vers l'accord, la réciprocité des point de vue, l'égalité des statuts, alors même qu'il y a un très beau paradoxe, je dois avouer que ça a été mon point de départ de ces recherches hein, sur relations école-famille, puisque j'étais enseignant chercheur plusieurs années à l'UFM de Bretagne, et le constat récurrent des jeunes professeurs, c'était ah bah oui, mais on voit que les parents des élèves pour lesquels ça se passe bien, et on voit pas les autres qu'on aimerait voir davantage. Alors, vous l'entendez une fois, 10 fois, 100 fois. Bon, après, il faut que s'en emparer pour peut-être en faire une question de recherche et finalement découvrir que ça fait 25 ans que ça dure. Soit on poursuit sur cette voie, soit on essaie de regarder les implicites et les impensés de ce modèle de relation qui paraît si vertueux, mais qui peut en fait secréter des inégalités dont on n'a pas nécessairement conscience. Donc la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut être partenaire et quelles sont les conditions, les dispositions qu'il faut présenter pour pouvoir se constituer et se faire reconnaître comme un parent partenaire. Faire reconnaître, hein, c'est-à-dire avoir une visibilité aux yeux de l'institution qui fasse qu'effectivement vous apparaissez comme un parent de bonne volonté par rapport à cette logique de partenariat. Alors, il faut que je surveille le temps parce que j'ai donc un choix de témoignage peut-être à faire. Alors, je vais passer deux témoignages, je pense que ça devrait aller. Voilà, il faut que je ressorte. Alors, on peut voir le témoignage de Régine Mordel et ensuite de Daniel, qui est principal de collège.
C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de relations avec les écoles, on ne sait pas comment que ça évolue, on ne sait pas comment que ça... Donc, déjà, essayer d'avoir plus de contact avec les écoles.
Et ça vient des familles, des fois, parce qu'il y a des familles qui n'osent pas y aller.
Il y a des familles qui n'osent pas y aller, ça c'est vrai. C'est pas toujours évident.
Pourquoi c'est pas évident?
Moi je sais que moi je vais facilement maintenant, mais fut un temps, je n'aurais pas été non plus.
Est-ce que tu trouvais que c'était trop, trop difficile, qu'on ne t'écouterait pas?
Bah, je trouvais que c'était difficile déjà parce que à l'époque où j'étais mariée, des démarches comme ça, j'aurais jamais pu les faire. Parce que mon ex-mari me l'aurait pas permis déjà.
D'aller à l'école?
Ah non, il ne m'aurait pas permis d'aller nulle part. Nulle part. Moi, j'ai évolué depuis, en fait, 4 ans, depuis que je suis divorcée. Et dans le groupe de Clunay, justement, j'ai l'ex-maîtresse à Kevin, à mon fils. Ouais. Et elle m'a dit, elle a bien fait la réflexion à tout le monde que j'avais vraiment évolué. Ah, bon. Parce qu'elle m'a dit, moi, je vous ai connu, vous n'étiez pas comme ça. Moi. J'étais pas aussi franc, je disais pas ce que je pensais, je n'allais pas vers les gens, rien, quoi. Rien. Parce que l'école, connaissant le père, ne voulait pas non plus, n'osait pas trop prendre contact non plus. Parce qu'il ne savait pas trop comment le prendre. Enfin, dans mon cas, moi, quoi. Parce qu'il était quand même réputé violent. Donc l'école, c'est ce que disait la dame la dernière fois, que l'école, des fois, essaye de prendre contact, mais ne savent pas non plus comment s'y prendre. Vis-à-vis des familles, quoi. Et les familles, c'est pareil, vis-à-vis de l'école, ils savent pas comment, certaines ne savent pas non plus comment franchir le pas. Moi, je pense que c'est réciproque des deux côtés.
Ouais. Dans le cas, par exemple, de Kevin, il y avait des mots sur il y avait des demandes de rendez-vous, il y avait comment...
Oui, c'était spécifié sur le cahier, il y avait des demandes de rendez-vous et tout ça, mais simplement, bon... Le père n'était jamais disponible, soit qu'il mettait qu'il n'était jamais disponible, ou alors c'était moi soi-disant qui n'était jamais disponible, enfin il arrivait toujours à contourner tout ça, quoi. Donc ça se fait qu'il a fallu qu'il y ait un pépin, comme il y a eu, pour qu'on puisse avoir contact. C'est malheureux d'en arriver là, quoi. Parce que si vraiment il y a eu un contact dès le départ, ça aurait été, cette catastrophe-là aurait été évitée. Peut-être pas le placement. Parce que bon, c'était tellement dur que le placement n'aurait peut-être pas été évité. Mais déjà, l'école, ça aurait pu, le contact aurait pu être meilleur. Et parce qu'habituellement, bon, eux encore l'école de Kevin, ils vont chercher les gens. Ils arrivent à peu près chercher les gens. Mais dit, on a beau aller les chercher, c'est pas pour autant que les gens y viennent, quoi. Parce qu'ils ont eu, bon, ouais, comme il dit, parce qu'ils ont une peur, ou alors ils ont sûrement une peur de ne pas être à la hauteur, ou bon, bah, comme moi la première fois que je suis allée, hein, je me suis dit, oh là là,
oui,
où c'est que je suis tombée. Puis maintenant j'y vais facilement.
La première fois, où je
suis. Ah oui, la première fois je me suis dit, où c'est que je suis tombée, parce que quand j'ai vu les personnes, oui, oui, je me suis dit, oh là là.
Les personnes chez les parents ou
chez les parents.
Les autres parents.
Ouais. Chez les autres parents, parce que je suis arrivée, j'ai été regardée de la tête aux pieds. Bon, je me suis dit, ça commence bien. T'énerves surtout pas, tu t'installes, tu dis rien. Puis ça s'est très bien passé. Je pense qu'il y a peut-être d'autres parents qui seraient venus, mais qui auraient fait demi-tour, quoi. Ils ne seraient pas restés, parce que de la manière que toute l'assemblée a regardé, c'est vrai que je me suis dit, mince, je reste ou je reste pas. Je dis, t'es arrivé là, t'as franchi le pas, tu continues. C'était peut-être mon imagination, hein, c'est fort possible aussi. Mais je voyais bien, moi, ma question déjà, ne serait-ce que d'habillement, des choses comme ça. D'habillement, la façon de parler. Parce que nous, on a quand même tendance à parler notre langage.
Hein. Là, mais là, tu te dis...
Je me suis dit, je veux pas parler, pas parler comme eux ils vont parler, quoi. Eux ils vont mieux parler que moi, ça va être mieux compris, ça va être mieux, et puis finalement non. Je suis sortie quand même assez satisfaite, parce que je me suis dit j'ai réussi quelque chose. Chose que je n'aurais jamais pensé réussir.
Voilà, donc je passe au témoignage de Daniel, principal de collège en milieu rural.
Ce sont les parents qui n'osent pas venir. Moi, je les vois pas suffisamment. Et quand vous dites qu'on les traite... Enfin, quand eux disent qu'on ne les traite pas comme les autres, quelque part, c'est peut-être là le problème. C'est justement qu'on les traite comme les autres et qu'il y a peut-être même quelquefois un vocabulaire qui ne passe pas. Et quand je fais des lettres aux parents, quelquefois, non pas que j'emploie... un langage très académique, mais quelquefois je me dis non, n'emploie pas ce terme-là, emploie quelque chose de plus compréhensible. Et moi je me demande si nous on sait vraiment se mettre à leur portée. J'ai beaucoup de mal avec les familles aussi longtemps que je ne les vois pas. C'est-à-dire que quand la famille, il m'est arrivé plusieurs fois, ça m'est arrivé aussi par le passé, mais encore cette année dans un autre contexte, où la famille appelle, ben, elle appelle parce qu'elle n'est pas contente, donc elle crie très fort, etc. Et je lui dis, ben, écoutez, venez, on va en discuter. Et après, ça passe. Donc il le faut, ce contact. Il le faut. Et ça passe dans les deux sens. Moi, j'ai compris des choses que j'ignorais, ils ont compris des choses qu'ils ignoraient aussi. Et bon, mais certaines familles ne font pas cette démarche. Et n'appellent pas. C'est-à-dire quand il y a un problème avec l'enfant, alors je suppose que c'est, ou bien, ils s'en fichent, donc ils ne réagissent pas, ou bien, bah oui, bah c'est le collège qui ceci, le collège qui cela, c'est tellement plus facile, mais ils ne bougent pas, donc ça ne peut pas évoluer la situation. Moi, je préfère qu'ils décrochent leur téléphone et qu'ils râlent un bon coup au téléphone, et puis qu'après on s'explique, au moins on s'explique. plutôt que des gens qui ne bougent pas ou qu'on demande d'avoir et qui ne viennent pas. Ils ne peuvent jamais. Ils n'ont pas de voiture, ils ont toujours une bonne excuse. Alors c'est peut-être vrai qu'ils n'ont pas de voiture, mais au bout d'un, ils peuvent bien trouver des voisins quand vraiment il y a besoin, pour l'enfant. De même qu'un gamin qui a des problèmes de lecture, on en a un par exemple qui, d'après l'évaluation 6e, là, en maths, calcul, bon, c'est pas mirobolant, mais il s'en sort. Par contre, tout ce qui est écriture, français, lecture, compréhension de texte, etc., il n'y a rien. Eh bien, ça n'inquiète pas la famille. Alors que ça veut quand même dire que ce gamin, s'il n'est pas trop mauvais en maths, ça veut dire qu'il n'est pas idiot quand même. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été acquis au niveau de la lecture, qui relève probablement de la dyslexie ou quelque chose comme ça, mais personne ne s'en est jamais inquiété. Et nous, quand on dit à la famille, ben écoutez, il faudrait voir, il y a quand même des structures, CMPP, oh, c'est où, il faut y aller. Bon, alors, on explique, mais un taxi peut venir le chercher, mais il faut quand même consulter. Tout semble compliqué, et tout est sûrement compliqué. Je pense que c'est compliqué, il faut les prendre par la main. Et puis voilà, est-ce qu'on est suffisamment? Bon, enfin, il y a des assistants sociaux de secteur quand même qui doivent prendre en charge. Alors, c'est très drôle parce que jusqu'à présent, j'ai toujours été dans des établissements très centre-ville, où j'ai passé, je suis quand même plus toute jeune, j'ai passé ma vie à démontrer aux gens qu'il n'y avait pas que la seconde générale, qu'il n'y avait pas que les classes préparatoires, qu'il n'y avait pas que Polytechnique, qu'il y avait aussi les BEP, et que par la voie du BEP, etc. J'ai passé ma vie à tenir ce discours-là. Et là, j'arrive et je vois un taux de passage en BEP, 50 ou 60%. C'est quoi ça? Et maintenant, je suis en train de tenir le discours inverse, de dire, mais il n'y a pas que le BEP, il y a aussi seconde. Donc, c'est carrément... Cela dit, c'est instructif. Moi, je ne savais même pas que ça existait, quoi. Une fois de plus, hein, c'est subjectif. C'est l'impression que j'ai pour certaines familles. L'école, bah, faut y aller, on y va. Il faut signer un papier, on le signe. Mais ça ne va pas au-delà. On attend que le gamin puisse en sortir pour, en général, faire le même métier que papa ou que maman. Et ça me surprend parce qu'il y a quand même, pour faire un peu vieille radoteuse, ma génération, il fallait faire mieux que ses parents. Enfin, les parents avaient quand même un point d'honneur à ce que leur enfant fasse mieux qu'eux. Alors, je sais bien que ça a un petit peu évolué, que maintenant, c'est difficile pour les enfants de faire mieux que les parents. Mais là, on ressent pas ça du tout.
Bien. Donc, je reprends le fil de mes interrogations sur la notion de partenariat pour questionner donc les conditions et implicites du partenariat. Alors je peux vous proposer une définition qui a peut-être le mérite de la simplicité du partenariat, hein, c'est celle qui est écrite ici, définition conjointe donc par les partenaires des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Une définition que je reprends d'ailleurs d'un ouvrage de Paul Derning, Éducation familiale. Et elle est intéressante parce qu'elle fait aussi la distinction avec la notion de coopération, hein, qui porte sur la définition conjointe des moyens à mettre en œuvre, sans parler d'objectifs, à distinguer de la concertation, échange d'idées avant action, et de la collaboration qui consiste à agir ensemble. Donc, finalement, si on prend cette gradation dans les relations et implications hein, pour chacun des acteurs partenaires, on peut se demander si on n'en demande pas trop aux familles et parents populaires immigrés en leur demandant d'être des partenaires, c'est-à-dire d'être associés à la définition des objectifs et même des moyens, puisque je l'ai montré brièvement, ils sont très vite décrochés scolairement et en situation d'impuissance hein, pour aider leur enfant et comprendre même les études qu'il fait et ce qu'on peut attendre d'eux à l'école. Donc, vous voyez, le terme nous piège, c'est un peu ce que je voulais signaler hein, en premier lieu, et il nous faut peut-être interroger donc l'évidence que recouvre le terme pour regarder donc ce qu'il implique en termes de conditions, dispositions, ressources, une fois transposées dans le cadre des relations entre école et famille. Alors, on l'entend dans le témoignage de Régine, on l'entendra aussi dans le témoignage de Catherine Trottard, qu'on visionnera tout à l'heure. La question du mode d'emploi n'est pas lisible pour tous les, ce que j'appelle le mode d'emploi, tous les parents, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut rencontrer des enseignants, selon quelle fréquence, parmi les acteurs de l'école, et à propos de quoi. Je crois que la question de savoir ce qu'on peut mettre dans le partenariat et dans des échanges avec les acteurs de l'école, elle n'est pas clairement abordée et définie. Ce qui fait que, d'ailleurs qu'il y a des parents qui vont, qui débordent dans le partenariat, qui vont raconter, c'est les témoignages que j'ai aussi du côté de certains enseignants, les soucis qu'ils ont dans leur couple, dans leur vie familiale, des soucis économiques, etc. Donc, oui, donc des parents qui seraient partenaires, mais pas au sens où l'entend l'institution, pas au sens où elle attend les parents, mais encore faudrait-il peut-être leur dire ce qu'elle attend et ce dont on peut parler. Les modalités pratiques, elle évoque cette principale de collège. Alors c'est intéressant parce que à la faveur de l'entretien, il y a une objectivation des conditions pour rencontrer une principale ou les enseignants. Et puis elle se rend compte que finalement, prendre rendez-vous à certains horaires, se déplacer, c'est pas si simple. Et puis il faut que ça se justifie aux yeux des parents, et ils ne savent pas toujours hein, si effectivement ça appelle un entretien. J'ajouterais volontiers sur les modalités pratiques, parce que je le découvre à la lumière des familles enquêter que il y a beaucoup d'horaires atypiques, il y a des situations de monoparentalité, on peut pas laisser les enfants seuls, son rôle c'est d'être au foyer hein, y compris quand son conjoint est là. Donc il y a une espèce de fixation sur l'espace domestique. Olivier Schwartz a très bien montré ça dans Le Monde privé des ouvriers, et d'ailleurs la femme fixe non seulement ses enfants mais aussi son conjoint. Vous voyez, il faut que toute la famille soit dans l'espace domestique. Donc aller à un rendez-vous, à une réunion à l'école, bon, dont on ne voit pas très bien l'objet, ce qu'on va pouvoir retirer, alors qu'on apparaît si nécessaire et légitime dans l'espace domestique, eh bien, c'est pas si simple. La maîtrise de la langue, je ne développe pas, mais enfin, là aussi, une évidence sur laquelle il faut quand même réfléchir, parce que c'est d'emblée un obstacle pour une partie des familles, hein, pas simplement la maîtrise de la langue française, mais les formes de langage. Hein, vous avez entendu ce que dit Régine à un moment donné, nous, on a tout le langage à nous. Hein, notre façon de parler, hein, et on n'est pas sûr que ça convienne. On n'est pas certain que ça va pas trahir qui on est à travers nos maladresses d'expression, la difficulté à argumenter son point de vue. Vous voyez, on pourrait perdre la face d'une certaine manière dans une situation d'interaction avec les acteurs de l'école. Et puis, bien sûr, on ne connaît pas bien le système scolaire. Alors, moi, j'ai parlé de différents. Pour introduire un concept hein, que je reprends de philosophe et sociologue sur l'idée que c'est pas simplement un malentendu hein, comme le dit utilement François Dubay. Bien sûr qu'il y a des malentendus au sens où en termes de communication, de compréhension mutuelle, ça ne fonctionne pas bien. Mais les règles d'échange ne sont pas partagées. Les règles d'échange ne sont pas partagées. Donc les familles ne savent pas comment se positionner. Quel rôle endosser, dans quelle réciprocité avec l'école. Donc les règles ne sont pas partagées et donc ça peut être assez vite une source de problèmes et de conflits. Hein. On l'entend un petit peu dans le cas de Régine, on l'entendra aussi dans le cas de Catherine. Régine, si vous vous souvenez, elle dit il a fallu qu'il y ait un pépin hein, pour que le contact se fasse, quoi. La règle de l'échange, vous voyez, c'est pas la même chose pour l'école et ces parents-là. Alors le problème, c'est que il y a une difficulté pour sortir des situations conflictuelles, hein, parce que le différent, c'est précisément le fait qu'il n'y ait pas de règle pour trancher en cas de conflit. On n'arrive pas à résoudre le conflit. Chacun campe sur sa position. Les choses sont bloquées. Et ce qui arrive parfois, moi j'ai quelques cas, dans le livre, j'ai un très beau témoignage d'une mère monoparentale qui ne veut plus entendre parler de l'école parce que ça suffit d'entendre dire tout le mal qu'on pense de son fils, donc d'elle en tant que mère. Mais le différent, puisque la règle d'échange n'est pas partagée, c'est aussi le risque dans une configuration qui est celle du partenariat, où on attend que les parents soient présents, réactifs, visibles, donc qu'ils manifestent tous les signes extérieurs de leur implication et participation. Quand vous êtes à distance et dans le silence, en cas de problème, vous allez apparaître comme un parent responsable, coupable d'une certaine manière de ce qui se produit. Donc le silence dans une relation d'interdépendance asymétrique met les parents en défaut. Hein, et donc le risque qu'ils soient du coup pointé du doigt, qu'ils soient stigmatisés comme des parents démissionnaires ou, si on est plus indulgent, des parents dépassés par leur situation et les événements qu'ils doivent affronter. Donc c'est ça le différent, hein, c'est réfléchir sur la règle d'échange qui n'est pas partagée et donc ce caractère implicite va engendrer des situations conflictuelles dont on ne parviendra pas sortir. Le différent, on pourrait dire, c'était une remarque qui m'a été faite dans des séminaires, mais oui, mais il y a toujours eu un différent d'une certaine manière, puisqu'il y avait la distance avec les parents, ce qui était vrai, c'était la première époque que j'évoquais tout à l'heure, des parents administrés. Oui, mais dans la mesure où il y a des attentes réciproques formalisées, institutionnalisées, réglementées, hein, à travers les relations avec les parents, bien du coup, ça devient problématique, ça l'est pour les familles, mais ça l'est aussi pour l'école. Alors, il faut noter néanmoins que le différent porte avantage, et ça, tous les acteurs de l'école le savent, sur les questions de comportement que sur des questions scolaires. Et là, aussi, je reprends cette distinction qui ne m'était pas apparue aussi nettement dans mes premiers travaux, mais sur le plan scolaire, les parents acceptent les jugements de l'école, même quand ils sont sévères. Hein, pourquoi ? Parce que ils reconnaissent l'école, la culture scolaire, donc ils ne vont pas contester sur le terrain des apprentissages et de la pédagogie. Il y a quelques critiques, on le verra tout à l'heure, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, et c'est là que ça achoppe, c'est en matière de comportement. Pourquoi ? Parce que l'éducation de l'enfant, c'est le domaine de compétences partagées entre l'école et les familles. Donc c'est sur ce terrain-là que ça va se jouer, et c'est sur peut-être ce terrain-là aussi qu'il y a confusion entre scolaire et comportement dans le partenariat. Et là, les parents n'acceptent pas. Les parents n'acceptent pas parce qu'il n'y a aucune raison que les jugements de l'école valent plus que les leurs. En tant que parents. Ils entendent être à égale dignité, à égale reconnaissance de compétences, au moins que l'école. Après tout, ce sont leurs enfants, et donc ils demandent, et c'est un terme qui revient très souvent, le respect. Et le respect, ça veut dire qu'ils ne veulent pas être méprisés. Et être respecté, ça veut dire ne pas être piégé dans ce rapport où ils apparaissent illégitimes, parce qu'on met en cause leur enfant pas simplement dans les apprentissages, mais aussi dans des formes de comportement qui sont jugées peu adaptées. Et c'est là qu'il y a des pommes de discorde très fréquentes, et c'est là que les parents revendiquent et contestent parfois les jugements de l'école. Alors, une dernière diapositive avant de regarder un témoignage et de conclure sur les logiques des familles à distance, pour parler donc des effets qu'on peut identifier dans ces relations école-famille. Bon, c'est là un travail qui demande à être considérablement développé, mais bon, pointons quelques questions finalement. Parce que effectivement, on voit bien que établir un lien, une continuité entre l'école et l'espace domestique aide à donner du sens à la scolarité. Bon, on peut reprendre le très beau travail de Bernard Lahire sur tableau de famille, hein, qui montre bien que dès lors que les savoirs existent dans l'espace domestique, ils aident à donner du sens à la scolarité. Ils réduisent la distance symbolique qui sépare l'école de l'espace domestique. Donc, premier enseignement. Deuxième enseignement, ça aide évidemment à changer les perceptions, les préjugés réciproques. Le témoignage de Catherine, de Régine, pardon, le montre bien. Hein. Elle a, elle aussi, certaines représentations de ce que c'est que l'école, de ce que ça va être une réunion avec les parents, de comment on va la regarder, etc. Et puis elle se rend compte, après une première expérience réussie, eh bien que c'est possible, y compris pour elle, hein, pour quelqu'un de petit, entre guillemets, pour elle, de dominer, en tous les cas, face à l'institution scolaire. Et on a des effets de légitimation réciproque. Dans les témoignages des enfants, alors c'est pas facile hein, de faire des enquêtes auprès des enfants, mais quand même, ça confirme les parents, ça confirme l'école, que de voir qu'il y a des petits moments d'échange, de contact. Et parfois, c'est très peu de choses. Hein, c'est les parents qui vont au portail. Hein, alors ils restent longtemps au portail, puis progressivement ils pénètrent dans la cour, et il faut que les enseignants sortent de leur classe, je parle de niveau élémentaire, pour qu'il y ait ces premiers contacts. Ça va pas plus loin, mais ça suffit. Sous le regard de l'enfant, il voit à ce moment-là qu'il y a des connexions qui se font. Donc il y a ces effets-là, même si sur le plan strictement scolaire, on peut s'interroger. Un rapport de recherche dont je n'ai pas eu encore connaissance, mais je suis impatient de le découvrir, donc produit par sous la direction de Éric Morin. Donc ils ont monté un dispositif expérimental avec des actions volontaristes en direction des parents dans des collèges difficiles et puis des collèges, on va dire, de difficultés comparables. Ils n'ont pas mis en place les dispositifs. Résultat, donc d'après cette recherche, dont j'ai absolument pas le détail, les actions volontaristes ont des effets bénéfiques. Du reste, le travail de Martine Kiroubi avec quelques collègues dans des parents dans l'école montre qu'effectivement, un travail d'équipe, un volontarisme, des parents qu'on ne voyait peu ou pas du tout peuvent venir dans l'école. Je reviendrai dans mes conclusions parce qu'il y a un autre enseignement de cet ouvrage qui est à mon avis tout à fait essentiel. Mais conclut donc Morin et son équipe dans le rapport tout récent qui a été remis au ministre, on ne voit pas d'effet scolaire. Alors, on ne va pas se hâter sur cette conclusion parce que la temporalité des effets scolaires, elle est peut-être plus étirée que la temporalité de la recherche, hein, qui a été menée un petit peu à marche forcée. Vous voyez, c'est un peu la commande politique. Donc sur un an, donc il fallait des résultats. Bon, on a des résultats. D'ailleurs, c'est un peu impressionnant parce qu'il vous montre que l'absentéisme a baissé de 1,5. Bon, il aime bien les statistiques, Éric Morin. Bon, je ne sais pas si on peut faire des corrélations nettes entre le dispositif et la baisse de l'absentéisme, mais il dit que sur le plan scolaire, on ne sait pas bien. Et c'est vrai que dans les recherches que moi je peux et les lectures que je peux avoir, on voit rien de tangible du point de vue scolaire, sans doute parce que c'est difficile à mesurer. Mais est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers ? Les effets pervers, c'est que cette école qui s'ouvre en direction des parents et qui appelle leur participation légitime ceux-là même qui déjà avaient plus de dispositions et de facilités et risque de mettre en difficulté ceux-là même qui seraient nécessaires de voir davantage et les stigmatise comme des parents non présents. Donc non présents, donc un peu coupables au sens où je le disais tout à l'heure. Donc, effet pervers possible, hein, c'est que finalement, à qui profite, hein, je pose la question de façon un peu provocatrice, volontairement, à qui profite ce partenariat? En tous les cas, je crois qu'il faut qu'on s'interroge sur les effets que ça produit. Alors, un dernier témoignage, le témoignage de Catherine, et puis j'essaie de conclure.
J'ai ma fille, j'ai ma fille qui a 36 ans, elle a fait des études... très courte. Bon, elle est mariée, elle a 4 enfants. J'ai mon deuxième garçon qui a 32 ans et qui travaille aussi. Mais mes deux jeunes, j'en ai un qui a 20 ans, qui va avoir 20 ans l'année prochaine, qui est donc Nicolas, qui a eu beaucoup de mal à l'école, et malheureusement. Mais ça n'a pas empêché qu'il a trouvé du travail, ponctuellement, hein, et que c'est un travailleur et qu'il est bien vu qu'il part où il passe, partout. J'ai mon deuxième, mon quatrième, il est à l'école à Lamballe, il est en pension. Et il est attiré sur le truc de mécanicien agricole, agricole si vous voulez, mais c'est sur les gros camions et les bulldozers, un peu tout ce truc-là, quoi. Et pendant les grandes vacances et pendant toutes les vacances qu'il peut avoir, il va travailler dans une carrière qui est à Saint-Médard, qui est bien vu aussi. Voilà. Et ça, c'est un sanctionnement. Je le dis, vous saurez ce que c'est que la valeur de l'argent, vous saurez ce que c'est que d'avoir, de gagner quelque chose. Parce que moi, j'étais vraiment dans la pauvreté jusqu'aux oreilles. Moi, je m'en suis sortie par mes enfants. Je n'ai vécu que pour mes enfants. Faut se battre. Nous, on se bat. Les autres... Il y a des enfants de personnes très bien placées qui n'y arrivent pas non plus, hein. Mais on ne va rien leur dire à ça. Ça, je regrette. C'est pas les mêmes paroles. Les comportements des institutrices envers un enfant que les parents sont bien, sont aisés, et qui a la même difficulté que l'enfant d'un pauvre. Hein, qui a la même, mais leurs choses ne sont pas. Ne sont pas évolués pareil, on ne le montre pas pareil. On ne discute pas la même chose.
Vous dites que ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes paroles.
Non, pas du tout, ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes paroles, ce n'est même pas le même regard. Ah ben oui, parce que les enfants de bien, personnes bien placées, on dit ben oui, ben oui, mais c'est embêtant parce que ne t'apprends pas ce qu'on se sert, mais ça viendra peut-être, ou ceci, ou cela, mais à l'enfant des pauvres, on ne leur dit pas ça. Non, 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 on va dire à ce que là, ben vous savez, non, 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 non. Bon, ah ben oui, ah ben là, c'est, puis ça suit toute la famille, hein, vous êtes assurés. Hein. C'est que les écoles, eh bien, ne prennent même pas compte de la famille, de la part des parents. Ils ne contactent même pas les parents. C'est eux qui ont le monopole avant nous. Et c'est eux qui choisissent avant nous. C'est eux qui choisissent avant nous. C'est pas autre chose. C'est, ils ont eu leur stade et puis ils ont discuté ensemble. Et puis ça, puis dès qu'on vous dit, au bout de, c'était 2 mois, 3 mois, on vient vous dire, ah ben oui, mais votre fils, ben ça va pas, il est toujours tout seul, ou il est toujours seul, il n'apprend pas, ou il a du mal à apprendre. Mais c'est au bout de 3 mois. On vous dit ça 3 mois. Mais c'est. Alors, où on répond quand même, ou je ne suis pas d'accord. On est quand même des parents, on est là, on est fait pour servir, on est fait pour savoir ce qui passe. On n'attend pas 3 mois après. Hein, ça faisait 3 mois que Nicolas avait été à l'école, il était toujours dans son coin, il n'avait pas parlé, pas un mot. Ils sont venus, ils me disent, est-ce qu'il parle votre fils? Je dis, oui, mon fils, il parle. Elle me dit, vous êtes sûr? Je dis, vous ne me prenez pas pour une idiote, non? Je dis, oui, mon fils parle. Et effectivement, ça faisait 3 mois, il avait été à l'école. Pas de réponse, et on a attendu 3 mois avant de me le dire. Mais par contre, eux, ils avaient fait leur toute leur petite enquête, leur enquête. Oui, parce que vraiment, ils vont au plus profond des familles. Hein.
C'est-à-dire.
Ils vont chercher tout ce qu'il y a de plus touchant pour une mère ou même pour un père, parce que le père, ils vont pas chercher sous le père, c'est souvent la mère qui se pose. Parce que la mère, elle a quand même un petit peu de répondant, et puis bon, ben, elle est plus tendre, elle est plus. Ça, c'est ce que le père, lui, c'est. Bon, on éclate, et puis ça va mal, quoi. Mais ils savent très bien blesser les parents. Jusqu'à un point de dire. On demandait les antécédents, si les parents boivent pas, on demandait aux enfants, alors. Je sais pas. Si on vous dit qu'un enfant ne parle pas et qu'on leur dit est-ce que ton père et ta mère boivent ou est-ce que ton père et ta mère baissent ou cela, est-ce qu'un enfant va répondre? À mon avis, je pense pas. Il ne va pas répondre. Il va se ramasser dans son cocon, puis terminer. L'assistance sociale, il en faut. L'espicologue, il en faut. Mais il y a deux bases, deux mesures. On ne prend pas les gens pour des imbéciles non plus. Moi, c'est ce que j'ai dit. On les prend le taux où ils sont. Mais parce qu'ils ne sont pas bêtes, hein. Ils savent nous traduire les choses en disant, tiens, la mère, elle est de ceci, et la mère, elle est de cela. Oh, ben, elle n'a pas été à l'école, elle ne va pas savoir nous répondre. Mais manque de peau, c'est que la mère, elle sait très bien répondre. Ben, tu n'as jamais été à l'école, mais vous n'en faites pas. Quand il s'agit d'enfants, que ce soit les miens ou que ce soit ceux des autres, il y a la réponse. Quand vous voyez quand même 17 personnes autour d'une table, ovale, on vous met dans le bout, et puis vous rentrez, vous diriez une bête curieuse, parce que chacun te regarde à sa façon. Ils ont des regards qui n'en disent beaucoup, et franchement, ils nous prennent pour moins que rien. Parce que eux, ils le savent, ils ont fait leur choix.
Là, vous parlez d'une réunion de
oui,
d'un conseil de classe.
Le conseil de classe, enfin des psychologues, des médecins, des instituteurs, des. Ben j'avais le. Comment ça s'appelle le, l'inspecteur académique. Vous dites, vous êtes 17 personnes qui étaient là, concrètes, en train d'attendre ce que j'allais dire. Ils pouvaient parler, ça part en l'air. Mais il y a l'écoute. Il y a le savoir de dire et de faire. C'est surtout ça. Il y a le savoir de ne pas blesser les gens. Et la sagesse aussi. De pouvoir être franc avec les parents. Parce que le trois quarts, c'est ça qui manque. La franchise et d'aller au-devant des parents. C'est là où ça manque.
Voilà, sur la base du témoignage très, très poignant hein, de Catherine, mais avec un savoir indigène. Tout à fait remarquable. On ne pense pas qu'une femme comme elle, qui a traversé la grande pauvreté, puisse avoir cette capacité de discernement. Alors bien sûr, il y a des choses sans doute injustes, mais il y a une expérience, il y a une vérité pour elle qu'il faut prendre en compte, je crois, pour réfléchir les effets de nos actions et des dispositifs lorsqu'ils s'adressent à ses parents. Donc on peut essayer de regarder ça sous l'angle de logique. Je vais terminer avec ça en ramassant mon propos parce que je suis un petit peu court dans le temps. La première logique, c'est une logique de confiance. Elle est présente dans les propos de Catherine. C'est donc des parents qui adhèrent aux valeurs de l'école républicaine parce que c'est pas simplement le lieu supposé d'une égalité des chances, même s'ils ne sont pas dupes, mais c'est surtout, et pour les parents particuliers, on l'entend, c'est très fort dans le témoignage de Catherine, c'est le lieu d'une égalité des droits entre les enfants, des droits entre les parents. Donc les minorités sont protégées par les institutions. Elles sont protégées parce que les institutions les mettent à égalité de statut et donc sont censées les respecter. Et c'est ce qu'elle attend en premier lieu, et c'est pas ce qu'elle a vécu à travers donc cette expérience malheureuse. Donc, on veut croire en l'institution scolaire et en ses professionnels jugés compétents, mais on peut être déçu et en difficulté, comme l'exprime Catherine, pour reprendre ce témoignage, parce que effectivement, on est informé tardivement d'un problème qui paraît déjà bien mal engagé, et donc on a le sentiment d'être mis au pied du mur, que sa parole ne sera pas prise en compte, et elle ne comprend pas qu'on ne l'ait pas sollicité plus tôt. Donc, il y a une conclusion très forte, à mon sens, qui doit nous aider à réfléchir, qui s'impose, parce que elle est bien présente dans les familles que j'ai rencontrées, c'est que la norme, c'est de ne pas intervenir. On n'intervient pas. Et on considère que c'est l'affaire de l'école, et que tant que l'école ne nous fait pas signe, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Sauf que quand l'école fait signe, c'est plus souvent pour signaler un problème, une difficulté avec l'enfant, et parfois ça arrive un petit peu tardivement. Et à ce moment-là, on voit les choses basculer, comme c'est dans le témoignage de Catherine. D'ailleurs, la confiance vire à la méfiance, voire à la défiance. On comprend pas, un sentiment de trahison. On s'en est remis à l'école, et voilà qu'on nous annonce que telle ou telle difficulté pour son enfant, et qu'il va falloir songer à une nouvelle orientation. Deuxième logique, je passe vite, il faut garder un petit peu de temps pour les échanges, la logique critique, donc critique sur l'élitisme des enseignants et peut-être de certains savoirs, la critique sur le manque d'autorité, il y aurait beaucoup à dire sur cette question de l'autorité, et la critique de la discrimination que subiraient les pauvres, comme le dit Catherine, ou ceux qui sont de telle ou telle communauté ethnique. Là aussi, le sentiment que l'institution scolaire ne considère pas égalité de statut et de dignité d'une certaine manière les parents, qu'elle ne les présuppose pas tous capables dans l'éducation de leurs enfants. Donc il y a le sentiment de ce traitement discriminatoire, et je crois qu'il est surdéterminé par les jugements et classements scolaires. Ils apparaissent à ce moment-là comme contestables, puisque les parents ne sont pas respecté. Et le poids du jugement scolaire donc est à comprendre à travers cette asymétrie du rapport entre école et famille. Donc le manque de respect surdétermine le sentiment d'un manque de respect surdétermine le jugement et le classement scolaire. Et la troisième logique, c'est une logique de défense identitaire. Ce sont des parents qui vont tenir en retrait de l'école, qui vont, comme dit le sociologue Irving Hoffman, se dissimuler parce qu'ils craignent d'être discrédités. Donc quand on se sent dominé et impuissant face à une institution, eh bien on essaye de se faire oublier d'une certaine manière, de se faire petit, en espérant qu'on pense pas trop à vous, qu'on vienne pas vous déloger. Donc c'est un repli défensif face à une institution puissante, ayant le pouvoir. Il faut le rappeler, elle a un pouvoir sur l'enfant, et qui peut atteindre, bien sûr, les familles. Donc les familles sont dans une injonction paradoxale, parce que quand elles vont à l'école, on leur parle des problèmes de leurs enfants. Lorsqu'elles n'y vont pas, elles sont pointées comme démissionnaires, absentes, etc. Et il me semble qu'arriver à un certain moment dans des scolarités chaotiques, des expériences malheureuses avec l'école, les parents vont adopter une stratégie, plutôt des tactiques, stratégies d'ailleurs, tactiques défensives, défensives pour préserver aussi le lien familial. On comprend bien que pour certains parents, les difficultés scolaires de leur enfant réactivent leur propre mémoire scolaire passée. Hein, donc c'est tout ce passé qui est remué à travers les difficultés ou l'échec de leur enfant, et c'est parfois pénible. Ce sont aussi des effets identitaires. Alors là, Catherine l'incarne de façon magistrale, c'est-à-dire que dire quelque chose de l'enfant, c'est dire quelque chose des parents. C'est porter atteinte à la dignité et l'identité maternelle. Or, dans les classes populaires, cette composante maternelle, c'est la composante principale de l'identité sociale des femmes. On a plus d'enfants, on les a plus tôt. Les enfants sont une source d'être et d'avoir. Donc, cette propriété qu'est l'enfant, on n'entend pas s'en faire déposséder par le jugement scolaire. Et donc il y a des effets familiaux aussi en termes de tactique défensive, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment, on prend la défense, dans parfois des dénis de réalité flagrants, hein, mais on prend la défense de son enfant. Parce que c'est plus supportable d'entendre ce qu'on dit de son enfant, et parce qu'on veut préserver le lien et une certaine cohésion familiale. Donc ce que j'appelle une stratégie de survie familiale. Hein. Donc l'enfant, le parent ne fait plus bloc avec l'école, il maintient, préserve le lien dans la famille. Donc du retrait pour garder la face, hein, et ne pas totalement s'effondrer.